Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
C'était dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Une date restée dans l'histoire, celle d'une tragédie, restée gravée dans les mémoires, le naufrage du Titanic. Je vous raconte maintenant le commandant star du paquebot, marin britannique à la carrière exemplaire, qui pourtant échoua à éviter la collision de son navire avec un iceberg, Edward John Smith. Il faut imaginer le port de New York au tournant du 19e siècle, un complexe déjà gigantesque accueillant le long de ses centaines de docks des bateaux en provenance du monde entier. En ce 16 décembre 1896, fait exceptionnel, aucun bateau, ou presque, ne navigue sur les eaux d'ordinaire si fréquentées de la baie de New York. En effet, depuis la veille, une tempête de neige épouvantable fait rage, balayant les côtes de vent, soufflant à presque 70 km/h. Un homme, cependant, ne semble pas impressionné. Le commandant du RMS Majestic, superbe paquebot de manufacture nord-irlandaise, a donné l'ordre que l'on prépare son navire au départ. Le fleuron de la White Star Line, prestigieuse compagnie britannique, est attendu dans quelques jours à Liverpool et ce n'est pas une tempête qui va empêcher le capitaine Edward John Smith de mener ce colosse d'acier long de 180 mètres et pesant près de 10 000 tonnes à bon port. Il faut dire qu'à 46 ans, Edward Smith, surnommé Ted dans son enfance, comptabilise déjà presque 30 ans d'expérience en mer. Entré par la petite porte dans la marine en tant que mousse à 17 ans, cet Anglais, issu d'un milieu très modeste, a patiemment et à la sueur de son front gravi les échelons jusqu'à obtenir son brevet de capitaine à l'âge de 25 ans. La mer donc, il l'a sillonnée de long en large et à maintes reprises, essuyé ses colères et surtout dans l'Atlantique Nord. Et celle-ci ne l'effraie pas plus qu'une autre. Alors, en cette fin de journée dantesque, Edward Smith a pris sa décision. Le Majestic va lever l'ancre pour s'élancer dans le chaos des flots déchaînés de l'Atlantique. Durant de longs jours, tandis que le bateau essuie des bourrasques féroces et subit l'assaut répété de vagues gigantesques, les presque 1500 passagers du paquebot, en proie au mal de mer, ont la stricte consigne de rester à l'intérieur. Sur la passerelle, le capitaine tient la barre quasi jour et nuit. Et heureusement, car un autre danger plus sournois encore s'annonce bientôt à l'horizon, une silhouette tabulaire gigantesque et immaculée émergeant solitaire au milieu de l'océan. Edward Smith connaît bien le péril que représente un iceberg. Il sait qu'un roc de glace plus colossal encore se cache sous la surface et que la coque de son navire n'y résisterait pas. Barre à tribord, ou à bâbord d'ailleurs, l'histoire ne le dit pas. La manœuvre d'évitement est faite à temps. Le Majestic atteint Liverpool indemne, 5 jours plus tard. Edward Smith, que l'on surnomme désormais le roi des tempêtes, ne se doute pas un instant qu'un épisode similaire mais funeste cette fois fera tragiquement entrer son nom dans les annales de l'histoire, 16 ans plus tard. Edward Smith, que l'on surnomme désormais le... Ah, ça, je viens de le dire. Je voulais vérifier que vous écoutiez. Et j'ai bien vu que vous dormiez. Ça m'a surpris. Mais pour l'heure, le roi des tempêtes ne craint rien ni personne et on le gratifie même d'un autre sobriquet, le commandant des millionnaires. Oui, car bientôt, les passagers les plus prestigieux de la White Star Line ne jurent que par ce capitaine au physique de l'emploi. Son visage plein de bonhomie, sa barbe soigneusement taillée, son tempérament calme et sympathique, dont émane une autorité naturelle, inspire confiance à tous. Tant et si bien d'ailleurs qu'à l'âge de 54 ans, Smith est au summum de sa gloire. La White Star Line en fait son commodore, soit son capitaine star, celui qui a l'honneur et la charge de commander le navire le plus imposant de la flotte. En cette année 1904, la compagnie vient tout juste de construire le plus gros paquebot du monde, justement, tout frais sorti des chantiers Harland & Wolff à Belfast, le Baltic, troisième de la série des géants des mers appelés les Big Four, mesure 222 mètres de long, possède 5 ponts et peut accueillir jusqu'à 2720 passagers, un mastodonte. L'âge d'or des paquebots bat son plein. La White Star Line construit des colosses à la chaîne et achève 3 ans plus tard un navire jumeau, l'Adriatique, confié celui-ci encore aux soins du Commodore Smith. Et la course au plus grand paquebot se poursuit. Une série de paquebots plus titanesques et plus luxueuses encore est lancée par la compagnie. C'est ainsi qu'en 1911, Smith prend le commandement du RMS Olympique, rival du superbe Mauretania de la Cunard Line, 269 mètres de long, 10 ponts, 52 000 tonnes. Les dimensions de l'Olympique sont inédites, mais pas pour longtemps. Elles sont un an plus tard égalées par un navire jumeau, quasi identique et tout aussi luxueux. Un géant décoré d'un mobilier somptueux et réputé insubmersible, le Titanic. Le 10 avril, vers 7 heures du matin, Edward John Smith dit au revoir pour la dernière fois à sa femme et à sa fille dans sa maison de Southampton. Un énième voyage inaugural l'attend ce jour-là, très médiatique encore. Bon, il a l'habitude. Le temps est calme à la mi-journée quand des docks, le dernier né de la White Star Line actionne ses sifflets. Les moteurs sont mis en marche, le bateau s'écarte lentement du quai, tandis que les passagers, massés le long des bastingages, font de grands signes de revoir à leurs proches restés sur le quai. Quatre jours plus tard, dans la nuit du 14 au 15 avril, et bien que de nombreux messages aient prévenu l'équipage de la présence de blocs de glace sur sa route, le Titanic ne parvient pas à éviter la collision avec un iceberg. Absent de la passerelle à ce moment-là, Smith est alerté par le tremblement qui secoue le navire tout entier. Les dégâts sont graves, irréparablement graves. Thomas Andrews, l'architecte naval présent à bord, ne donne au bateau qu'une heure et demie avant qu'il ne coule. Ce n'est pas assez pour remplir tous les canaux de sauvetage à capacité. Et d'ailleurs, Smith en a parfaitement conscience. Ces derniers ne sont pas assez nombreux pour accueillir tous les passagers, la moitié à peine. Pour ne pas créer de mouvement de panique, Edward Smith évite soigneusement d'alerter les passagers que le navire va sombrer. Tout juste donne-t-il l'ordre qu'ils embarquent au plus vite dans des canaux de sauvetage, par précaution seulement, les femmes et les enfants d'abord. Dans le chaos des quelques 2 heures et demie qu'il reste en fait au bateau, il est aperçu à plusieurs reprises donnant des ordres et supervisant l'évacuation, incitant son équipage à rester digne, à se comporter précisément en britannique, selon les mots qu'on lui prête. Edward Smith n'évacue pas. Dans la plus pure tradition maritime, il n'a nulle intention de quitter le navire alors que des passagers sont encore à bord, et il coule donc avec lui. La version la plus répandue, sur ses derniers instants, le place sur la passerelle au moment de sombrer, digne et calme derrière la barre, en bon britannique donc.
Europe 1, historiquement vôtre.